Un entretien sur Radio Prévert pour annoncer le prochain numéro d'un rendez-vous incontournable dénommé un dimanche à la bibliothèque. Le 17 mars 2024, c'est Jean-Michel Delaconté qui sera sur la scène du théâtre de la Halle au Blé à la Flèche avec vous sur le thème du portrait littéraire. Bonjour Jean-Michel Delaconté.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à quelques questions de Radio Prévert, questions qui vont essayer de vous cerner un peu et puis d'en savoir un peu plus sur le choix de ce thème-là, le portrait littéraire. Vous avez publié de nombreux portraits littéraires justement, dont certains consacrés à des figures majeures de la littérature française, Montaigne, Racine, La Bruyère et bien d'autres. Et qu'est-ce qui vous attire vers ces personnages ?
Il n'y a pas d'événement particulier. Sauf peut-être pour Montaigne, j'ai commencé avec des auteurs qui sont immenses. Je pense à Bossuet, par exemple, que on ne lit plus et qu'on apprend quasiment plus à l'école, ce qui est dommage, alors que c'est certainement un des plus grands écrivains que la France ait connu. Et voilà maintenant 35 ans à peu près, 40 ans bientôt. C'est pas d'hier, vous voyez. Je me suis intéressé à Bossuet et je me suis intéressé aussi à des personnages qui tournait autour de la princesse de Clèves, qui m'a toujours paru, et je suis pas le seul bien évidemment, comme une œuvre littéraire de toute première importance. Et j'ai commencé par écrire un portrait de la femme, de la première femme du frère de Louis XIV. Et je dis ça parce que, bien sûr, on connaît plus tellement ça, mais elle s'appelait Madame, elle s'appelait Henriette d'Angleterre. La petite fille de Louis XIII, il y a encore 30 ou 40 ans, c'est des personnages qui étaient très connus, des lecteurs, enfin très connus relativement, mais enfin bien connus, et qui ont connu eux-mêmes pas mal de biographies. Et moi, je n'ai pas voulu faire de biographie, ça ne m'intéressait pas à ça. C'est pas que la biographie soit un art ou une manière d'écrire qui mérite d'être dédaigné, pas du tout, c'est extrêmement important. Mais j'ai voulu faire des portraits. Je n'ai pas écrit que des portraits. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des essais, mais j'ai écrit peut-être principalement, c'est à voir, enfin en tout cas beaucoup de portraits, comme vous dites, de personnalités majeures. Parmi ces personnalités majeures, j'ai commencé avec Madame. Madame, c'est en France, voyez, elle était toute jeune femme encore quand elle épousait évidemment le frère de Louis XIV. C'est aux alentours, elle a vécu entre 1650 et 1670 où elle est morte. C'était un personnage majeur, c'était, pour vous, vous allez voir ce que ça veut dire, c'était pour la cour de France du tout jeune Louis XIV, un peu Lady Diana. C'était un peu ça. C'est intéressant. Et elle était connue autant, toute proportion gardée, bien évidemment, que Lady Diana. Et à partir de ce portrait-là, peu à peu, eh bien, je me suis intéressé à d'autres personnes, d'autres personnalités, soit littéraires, comme Madame de Lafayette, qui écrit La Princesse de Clèves, Bossuet, Saint-Simon, etc., soit des personnages historiques qui sont très peu connus, parce que je vais me permettre de vous poser une question, si vous me le permettez.
Allez-y.
À votre avis, connaissez-vous un roi de France depuis François Ier qui est à peu près inconnu ? Un seul.
À peu près inconnu, un seul ? Non.
Quasiment inconnu. Eh ben, c'est quelqu'un qui s'appelle François II, qui a régné pendant un an de 16 à 17 ans à peu près. François II, j'ai fait un portrait de lui. Vous voyez ce que je veux dire, je dis ça pour vous dire quelle était ma démarche. Remarquant que c'était le seul roi pour lequel il n'y avait aucune biographie, je me suis dit, plutôt que de faire une biographie, je vais faire un portrait de François II. Voilà. Et ça s'appelle, je l'appelais, moi, le roi miniature. Voilà. Ce détail que je vous signale, c'est que en même temps, il y a des personnages très fameux, comme Saint-Simon, etc., et Bossuet, Racine, encore plus peut-être, et d'autre part, des personnages qui sont peu connus, un autre personnage, une dame, ils appelaient Madame de Motteville, qui était la dame d'honneur, plutôt, de la mère de Louis XIV, j'ai fait un portrait d'elle. Personne n'a jamais fait ça. Voilà, bon, en première approche, je dirais ça. Pourquoi le 17e? Non, j'ai écrit également sur Ambroise Paré, cet immense chirurgien du 16e siècle, pour lequel il y avait des biographies, oui, mais pas tellement, et je me suis dit, là aussi, un portrait était plus intéressant de le faire, enfin pour moi, je veux dire.
Et oui.
Vous voyez et puis il y en a eu d'autres portraits, mais on va peut-être en parler. Mais voilà, si vous voulez, en très très gros, le début de mon intérêt pour le portrait. J'ajouterais quand même quelque chose, il faut toujours rendre grâce dans la vie à ceux qui que vous aux hommes ou aux femmes que vous rencontrez et qui ont une importance majeure. Et pour mon compte, je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent très bien de la collection que je vais évoquer, mais il y avait, elle s'est achevée à peu près une dizaine d'années avec la mort de son créateur, une collection qui s'appelait L'un et l'autre chez Gallimard. Et ce créateur, qui était psychanalyste et un remarquable écrivain lui-même, et remarquable éditeur, qui s'appelait Jean-Bertrand Pontalis. Et il a, pendant quand même presque 30 ans, il dirigeait cette collection, L'un et l'autre, qui m'a inspiré l'idée du portrait. C'est-à-dire que j'écrivais des choses et puis je pouvais le présenter à des éditeurs, ça les intéressait, ils voyaient pas tellement. Et puis, lui, par sa collection, j'ai trouvé le lieu où je m'exprimerais le mieux, et en passant par le portrait, L'un et l'autre. L'un, c'est un auteur, un écrivain, et l'autre, c'est, si je puis dire, son modèle ou la personne dont il parle. Voilà. Et le portrait, c'est ça, c'est un rapport entre un peintre ou un écrivain et un modèle.
Alors vous, Jean-Michel de la Comté, comment s'articule votre travail, si j'ose dire, de portraitiste littéraire avec vos autres écrits, puisque vous avez bien pris le soin de nous dire que vous avez écrit autre chose que des portraits littéraires?
Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse pour ma part, dans la littérature en général, enfin dans ce que j'écris, mais même au-delà de ça, c'est... le fait de peindre avec des mots, c'est-à-dire le rapport, si vous voulez, je ne vais pas approfondir trop, mais le rapport qui existe et que tout le monde, sur lequel tout le monde peut s'interroger, entre l'écriture et la peinture, voire la photo d'ailleurs. Et donc, pour ma part, mon souhait, ça vaut pour le roman d'ailleurs, comme pour les portraits, c'est écrire avec des mots. Si je devais avoir une devise, c'est celle-là, ou un principe, ou une volonté, un désir, un souhait, c'est peindre avec des mots. Comment est-ce qu'on peut peindre avec des mots? C'est-à-dire représenter par des mots, presque visuellement, la vie de certains personnages. On peut appliquer le portrait à tout le monde. C'est ça qui m'a toujours guidé, moi. Ce lien entre la peinture et l'écriture. Et la littérature, mais l'écriture, disons. Vous voyez? Et dans les romans, j'ai écrit un roman que j'aime bien, je me permets de le citer, hein, sans prétention, naturellement.
Allez-y.
Que j'ai publié il y a 5-6 ans, qui s'appelait Le sacrifice des dames, qui est une histoire complètement imaginaire, mais dans une réalité historique réelle, qui se passe en Hongrie au début du XVIIe siècle. C'est l'époque de Machiavel, d'ailleurs. C'est le grand choc entre le monde d'Habsbourg, le monde chrétien, et le monde musulman, avec les invasions, les grandes invasions de ottomanes de l'époque, et à travers le portrait de l'héroïne, une jeune femme, qui est géniale aux échecs, et qui et tout le livre est construit là-dessus. C'est un roman baroque. Alors évidemment, ça semble un peu bizarre, mais dans ce roman baroque, l'œil est extrêmement important pour moi. Enfin, pour moi, dès lors que j'écris... Ce roman, je veux représenter, j'essaye, ça veut pas dire que je réussisse, j'aurais pas cette prétention, mais j'essaye de représenter visuellement ce qu'on lit, et les visages, les actions de ce qu'on lit. Voilà, si vous voulez. Et là, il y a un lien entre le portrait et le roman. Par ailleurs, j'écris des essais, mais là, c'est complètement autre chose.
Et est-ce que, par rapport à une biographie, la frontière que vous pourriez franchir, c'est d'apporter des éléments de contexte expliquant ce dont il s'agit, chose que le biographe peut ne pas s'autoriser?
Oui, c'est un point très important que vous soulevez. Il y a une différence, c'est très important. Un portrait, c'est le portrait de quelqu'un, mais c'est le portrait d'une époque en même temps. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, par exemple, voyez, je vais prendre l'exemple d'Ambroise Paré. Je ne sais pas si vos auditeurs, si les éditeurs en général, les auditeurs en général connaissent encore Ambroise Paré, peut-être le nom quand même, mais c'est même pas sûr. Et pourtant, c'est lui qu'on appelle le père de la chirurgie moderne, ce qui n'est pas tout à fait rien. Un personnage extraordinaire. Eh bien, faisant le portrait d'Ambroise Paré, je fais le portrait aussi du contexte médical de son époque. Et il a servi 4 rois, Ambroise Paré, pendant 40 ans sur les champs de bataille des guerres des religions. Vous voyez ? Et dans le temps même où je peins son portrait, si je puis dire, où j'écris son portrait, à lui personnellement, personnage prodigieux que j'admire immensément, eh bien, dans le même temps, je parle bien évidemment de la médecine à son époque et je replace Ambroise Paré dans le contexte médical et intellectuel lui-même de son époque. Les deux vont ensemble. Quand j'écris sur Saint-Simon, l'immense mémorialiste, je parle bien sûr de la vie de Saint-Simon, mais je parle d'une certaine façon de l'époque à laquelle il se réfère, c'est-à-dire l'époque de Louis XIV, la fin de Louis XIV, et l'époque de la régence du duc d'Orléans. C'est tout ça. Et donc des autres personnages, évidemment, qu'il a côtoyés. Il était duc et pair, hein, comme vous le savez. Et donc je peins aussi, bien évidemment, son époque. Les deux sont complètement liés.
Et le portrait réalisé de Saint-Simon vous a valu beaucoup de prix. Et j'imagine que pour vous, c'est une fierté d'avoir obtenu ces prix-là, mais ça va au-delà de tout ça ?
Sur Saint-Simon, oui, certainement. Oui, parce que écrire sur quelqu'un comme Bossuet, ou Saint-Simon, justement, comme ce sont, évidemment, je ne vais pas tomber dans la mélancolie, mais ou dans la nostalgie plutôt, mais ce sont des auteurs qui sont, on s'en rend pas toujours compte aujourd'hui, parce qu'on les apprend peu à l'école. Ce sont des écrivains prodigieux. C'est-à-dire qu'ils ont un maniement, il n'y a pas que, hein, il y a un maniement de notre langue qui est intimidant quand on écrit sur eux. Donc comment faire en sorte d'écrire un portrait qui ne soit pas ridicule, qui ne soit pas excessivement faible par rapport à ces écrivains de tout premier plan. Vous voyez ? Alors il y a une sorte, c'est pas du tout une rivalité, c'est un exercice d'admiration, mais pas un exercice d'admiration béate. Il faut une certaine distance en même temps pour réussir à faire en sorte que l'admiration elle-même se transpose, se transforme en exercice. Un exercice, c'est pas exactement un exercice, mais comment on peut dire un exercice de dessin, si vous voulez, qui soit à la hauteur. Et là il y a un débat avec soi-même et avec la personne dont on traite, le personnage dont on traite, qui est un débat toujours très très passionnant, parce que simplement une remarque, entre une biographie et un portrait, il y a une différence essentielle.
Laquelle ?
C'est que la biographie, il y a deux différences essentielles.
Lesquelles ?
La différence, la biographie, presque toujours, elle suit une démarche linéaire, c'est-à-dire de la naissance à la mort. Le portrait, pas du tout. C'est pas du tout la démarche du portrait, tel que moi je le fais. Il y a toujours une sorte d'énigme à résoudre dans le portrait tel que moi je le pratique. Il y a ça. Et d'autre part, la biographie, elle a comme objectif d'être exhaustive. Elle doit dire le maximum sur un personnage. Moi, je prétends pas dire tout sur un personnage. Je cherche à dire l'essentiel, ce qui n'est pas la même chose. Vous voyez? Donc ça veut dire que et puis il y a une troisième donnée que je vais signaler tout de suite. Le portrait, c'est un, et d'ailleurs c'est facile à comprendre si on voit la peinture, c'est un exercice de composition, comme une composition musicale d'ailleurs presque, mais comme une composition picturale. Mmh. Et d'autre part, il y a dans le portrait, dans l'exercice lui-même, dans l'effort même, dans la démarche du portrait, il y a un souci du style, de la manière de dire, qui est fondamental. Ce qui n'est pas le propos de la biographie. La biographie, elle doit être explicite, très claire, presque transparente. Enfin, j'exagère, pas nécessairement, mais enfin, très explicite et très directe comme écriture. Le portrait, c'est différent. Il y a une donnée poétique, non pas que ce soit la poésie comme un poème, mais une volonté de d'aller au-delà des simples phrases, si je puis dire. Voyez.
Peindre. Donc, avec des mots, peintre. Avez-vous dit.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement comme en peinture. Il y a donc d'une certaine façon, une sublimation de ce qu'on fait. Puisqu'on cherche, je cherche, il ne faut pas considérer, un petit peu comme un alchimiste. Et je dis ça parce que le portrait ou le portraitiste, il cherche à extraire la quintessence de la personnalité dont il traite. Vous voyez, c'est un exercice, à mes yeux, éminemment littéraire. Et d'ailleurs, en fait, dans le roman, c'est pas tellement différent de ce point de vue-là. Et les grands romanciers sont des grands portraitistes à leur manière. Je vais prendre un seul exemple, mais il y en a plein. Deux exemples très connus. Flaubert, c'est évident que c'est une écriture de picturale, évidemment. Madame Bovary, on la voit. Et les portraits de Charles Bovary sont extraordinaires. C'est un grand portraitiste. Prenez quelqu'un comme Proust, c'est évident. Si on prend les grands personnages de Proust comme le baron de Charlus, par exemple, évidemment que ce sont des portraits, évidemment. Et d'ailleurs, le souci que Flaubert ou Proust, pour prendre ces auteurs ultra connus, le souci qu'ils ont de, le mot veut tout dire, de dépeindre leurs personnages, de les peindre, est absolument évident. Et les grands romanciers sont évidemment de grands portraitistes, et le portraitiste essaye, lui, d'être un peu comme le romancier, d'ailleurs. Il y a une trame narrative, comme dans le roman, qui relève justement de la nécessité de la composition, d'une composition recherchée pour chaque personnage. Et c'est normal, parce que toute vie est unique et particulière. Donc tout portrait, toute démarche du portrait doit être unique et particulière.
Comme va l'être ce dimanche à la bibliothèque du 17 mars 2024 au théâtre de la Halle au Blé, j'entrevois déjà Jean-Michel Delaconté des mots plein les murs de ce théâtre à l'italienne, avec un public conquis, ravi de vous entendre vanter les enjeux du portrait littéraire. La dernière fois, j'avais quelqu'un que j'interviewais et qui me dit « Vous posez une question dont vous connaissez déjà la réponse, donc pour vous, il faut continuer ». À peindre avec des mots des portraits littéraires, c'est sûr.
Merci beaucoup.
La réponse est évidente. Et puis, je me permets de dire aux auditeurs que votre dernier ouvrage, c'est un portrait d'un pommier en fleurs, Jean de La Fontaine, portrait d'un pommier en fleurs, au Cherche-Midi. C'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et ceux qui viendront vous voir, eh bien, ils vivront assurément un grand moment le dimanche 17 mars 2024. Ça va se passer de 15h à 16h30 et quelque chose me dit que le temps, eh bien, il va paraître très court. Tant vous avez plein de choses à dire, j'avais encore plein de questions et on a débordé, on s'était dit 15 minutes, mais je sais qu'on est aux alentours de 20 minutes et on va pas me taper sur les doigts puisque c'est pour la bonne cause et Frédéric Roux ne m'en tiendra pas rigueur. Donc merci infiniment Jean-Michel Delaconté.
Merci à vous. Merci.